Bienvenue sur Inter, il est 7h. Aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes le 12 mai, le journal. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric.
Dans l'actualité ce matin, le retour en France des deux otages enlevés au Bénin, récupérés au Burkina Faso, l'accueil sobre du chef de l'État hier et la mise en garde du ministre des Affaires étrangères aux Français qui voyagent dans les zones déconseillées par le Quai d'Orsay. Les autres titres, Laurence.
L'affaire Vincent Lambert va-t-elle trouver son épilogue dans une semaine? Le médecin de cet homme, devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France, annonce l'arrêt des traitements la semaine du 20 mai. La mort du cinéaste Jean-Claude Brissot, décédé à Paris à 74 ans, il était l'auteur d'une douzaine de films, dont Noce Blanche, son grand succès de 1989 avec Vanessa Paradis. Un pistolet camouflé en rouge à lèvres, une caméra dissimulée dans un bouton, un parapluie mortel, le musée de l'espionnage rouvre ses portes à Washington.
Un mot sur l'invité à partir de 8h20, ce sera Thierry Mariani, le numéro 3 de la liste du Rassemblement National pour les Européennes.
France Inter.
Les deux otages libérés par les forces spéciales françaises dans le nord du Burkina Faso au prix de la mort de deux militaires ont été accueillis hier avec sobriété par le président de la République. Emmanuel Macron les a salués brièvement, puis il s'est entretenu quelques minutes hors caméra avec les otages et leurs familles avant de s'éclipser. Le récit de ce retour des otages en France avec Béatrice Duguay.
Pas d'effusion, pas de joie affichée, pas d'étreinte. Ce retour devait être nécessairement grave et discret. Accueil assumé par Emmanuel Macron, chef des armées, pour clore cette mission qu'il a déclenchée et que deux hommes ont payé de leur vie. Ce qui fait dire à Laurent Lassimouillas, ce sacrifice donne un sens à nos vies. Courte déclaration contrite ensuite.
Certainement aurions-nous dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État et la complexité de l'Afrique et éviter de nous rendre dans cette magnifique région du monde qui malheureusement bascule dans l'instabilité. Nous espérons que toute cette violence cessera au profit d'un monde plus fraternel qui essayera enfin de mieux se comprendre.
Si Jean-Yves Le Drian a rappelé que les conseils aux voyageurs de son ministère des Affaires étrangères sont des incitations impératives, Florence Parly, ministre des Armées, s'est quant à elle fendue d'un message intraitable à l'égard des preneurs d'otages.
Donner sa vie pour sauver celle des autres, c'est la forme ultime de l'engagement, celle qui nous dépasse tous. Alors, le message de la France est clair. C'est un message qui s'adresse aux terroristes. Ceux qui veulent s'en prendre à la France, aux Français, savent que nous les traquerons, nous les trouverons et nous les neutraliserons.
Les dépouilles des deux soldats tués, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, seront rapatriés ce dimanche en France avant l'hommage national de mardi à Paris.
Le reportage de Béatrice Duguay. 11 ans maintenant que Vincent Lambert est cloué sur son lit d'hôpital à la suite d'un accident de voiture et désormais, son médecin a l'intention d'interrompre les soins dans la semaine du 20 mai.
Le sort de cet homme de 42 ans, devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France, divise depuis des années sa famille. D'un côté, ses parents, proches des milieux catholiques traditionnalistes, un demi-frère et l'une de ses sœurs qui refusent l'arrêt des soins, et de l'autre, son épouse et d'autres membres de la famille qui veulent qu'on le laisse mourir. Vincent Lambert est déclaré en état post-irrelationnel. Contrairement à l'état végétatif, on lui suppose un minimum de conscience. Sylvie Bassal.
Depuis 10 ans, une bonne dizaine de décisions de justice ont été rendues dans cette affaire. Tribunal administratif, cour d'appel, conseil d'État, cour européenne des droits de l'homme. Tous les leviers juridiques possibles ont été activés par les avocats des parents de Vincent Lambert, opposés à l'arrêt des soins. Au contraire, depuis tout ce temps, une autre partie de la famille souhaite que cesse l'acharnement thérapeutique. Deux points de vue qui sont irréconciliables. Vincent Lambert a été accidenté en septembre 2008. Et si, selon ses proches, cet infirmier avait clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas d'acharnement thérapeutique, il n'a laissé aucune consigne écrite. Depuis l'annonce d'un prochain arrêt des soins, cette partie de la famille ne souhaite plus s'exprimer. Les avocats des parents de Vincent Lambert occupent donc le terrain médiatique et expliquent qu'ils ne vont pas laisser faire cela. Vincent n'est pas un légume, a dit Maître Triomphe, en contredisant ainsi toutes les expertises médicales. Il annonce d'autres recours à venir, sans dire lesquels, sans que l'on sache si cela peut une nouvelle fois retarder la procédure de sédation annoncée pour la semaine du 20 mai.
Sylvie Bassal. Après bientôt 6 mois de mobilisation, le mouvement des Gilets jaunes a de nouveau peiné à mobiliser pour son acte 26, marqué hier par des heurts à Nantes et à Lyon, les épicentres des manifestations du jour. Selon le ministère de l'Intérieur, ils étaient 18 600 manifestants en France, dont 1200 à Paris, soit la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement le 17 novembre. Un décompte contesté par les Gilets jaunes qui annonce environ 37 500 manifestants. On vote en Nouvelle-Calédonie pour renouveler les institutions constitution locale de l'ultime mandat de l'accord de Nouméa. Le taux de participation à ces élections provinciales était ce dimanche à midi de 31,42%, 10 points en deçà de la participation à la même heure lors du référendum sur l'indépendance du 6 novembre dernier. Au Pakistan, plusieurs hommes armés ont attaqué un hôtel de luxe situé dans la ville portuaire de Gwadar, dans le sud-ouest du pays. Il y a au moins un mort. Et puis le groupe État islamique revendique la mort de 11 soldats nigérians tués hier dans une attaque dans la province de Borno, dans le nord-ouest du pays. Les handballeuses de Metz, éliminées en demi-finale de la Ligue des champions dames, défaite face aux Russes de Rostov, 27-25, c'était hier à Budapest. Et puis la mort de Jean-Claude Brissot, le réalisateur à l'aura sulfureuse. Il était âgé de 74 ans. Il avait été mis en cause dans des affaires de harcèlement sexuel. Le réalisateur était l'auteur d'une douzaine de films, dont De bruit et de fureur, L'ange noir ou encore Noce blanche, qui avait révélé Vanessa Paradis en 1989. Mathieu Curon.
Après avoir renoncé à faire des études de cinéma faute d'argent, Jean-Claude Brissot devient professeur de français à Aubervilliers. Parallèlement, il tourne deux films en Super 8, dont La croisée des chemins, qui est repéré par Éric Rohmer, qui l'aidera à produire son tout premier long-métrage, La vie comme ça, à la fin des années 70. Bruno Kremer devient son acteur fétiche, il tourne trois films avec l'acteur dans les années 80, Un jeu brutal, De bruit et de fureur et Noce blanche. Ce dernier film avec Vanessa Paradis connaît un succès populaire important, l'histoire dramatique d'une jeune élève qui tombe amoureuse de son professeur. Par la suite, son film L'Ange Noir avec Sylvie Vartan et Michel Piccoli connaît lui un échec qui va l'obliger à produire lui-même certains de ses films. Dans les années 2000, le réalisateur connaît plusieurs condamnations pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. En 2017, la Cinémathèque française renonce même à une rétrospective Brissot après la polémique sur l'hommage rendu à la carrière de Roman Polanski. Cinéaste de films sociaux aux frontières de l'onirisme et du surréalisme, Jean-Claude Brissot, réalisateur autodidacte, aura réussi seul à se faire un nom dans l'histoire du cinéma français.
Allez, on va terminer avec un petit conseil de tourisme. Si vous envisagez d'aller faire un tour à Washington, eh bien ne ratez pas l'un des attraits touristiques de la capitale fédérale américaine.
Le musée de l'espionnage rouvre ses portes ce dimanche après plusieurs mois de travaux. Le Spy Museum a doublé sa surface. Il propose plus de 7000 objets qui vont de l'Aston Martin de James Bond à la machine Enigma qui permettait aux nazis de coder leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée raconte l'histoire des espions à travers les siècles, mais s'intéresse également aux problématiques les plus actuelles comme le renseignement aujourd'hui ou les méthodes d'interrogatoire de la CIA. Visite guidée en avant-première avec Grégory Phillips.
Êtes-vous prêt à pénétrer un monde d'ombre et de mystère? Peut-on lire à l'entrée de ce Spy Museum? Et ce n'est pas tout à fait un hasard s'il est situé ici.
Washington
a été la capitale de l'espionnage pendant des décennies, explique Vince Houghton, l'historien et commissaire d'exposition. Aujourd'hui encore, il y a plus d'espions à Washington DC que n'importe où ailleurs dans le monde. Le musée est interactif, vous pourrez ainsi vous glisser dans la peau d'un conseiller de Barack Obama et décider de l'opportunité ou non d'un raid contre Ben Laden dans sa résidence d'Abbottabad au Pakistan. Les objets présentés aussi sont spectaculaires, l'Aston Martin de James Bond dans Goldfinger, quantité de pièces remontant à la guerre froide ou encore le piolet qui a servi à l'assassinat de Léon Trotsky. Mais ce Spy Museum s'intéresse aussi aux problématiques actuelles, le renseignement, les moyens modernes de collecte d'informations ou les différentes techniques d'interrogatoire. Dans cette salle, on trouve une planche utilisée par la CIA après les attentats du 11 septembre pour torturer des détenus avec la technique du waterboarding, la simulation de noyade. Notre idée, c'est qu'on ne peut pas ignorer les heures les plus sombres de notre passé, dit l'historien. On ne peut pas taire cela simplement parce que ça aurait mis les gens mal à l'aise. Le musée de l'espionnage est désormais situé à deux pas du Mall, au cœur de la capitale fédérale américaine, et à quelques blocs seulement de la Maison Blanche et du FBI. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et on retrouve Éric Delvaux pour la suite du 6-9 sur France Inter.
C'était Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
C'est plaisant à dire. Une belle journée dans son ensemble, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait, Eric. Une journée largement dominée par le soleil, mais avec des températures toujours un peu justes pour la saison, avec 16 degrés en moyenne du nord de la Loire au quart nord-est, 18 à 21 près de la Garonne et 20 à 23 autour de la Méditerranée. Donc des valeurs que nous avons à peu près eues hier. Avec beaucoup de bleu aujourd'hui et par moments quelques nuages supplémentaires à prévoir au nord de la Seine, mais c'est surtout de l'arrière-pays provençal à la Corse que le temps sera le plus mitigé avec un risque d'averse. Et puis le vent sera très turbulent près de la Méditerranée avec des rafales à 90 km à l'heure sur la Corse et pour la Tramontane, 120 pour le Mistral en basse vallée du Rhône. Vent également turbulent en fin de journée sur les crêtes pyrénéennes.